Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous lancerons dès 2020 un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sur 3 ans.
Le plan d'urgence du gouvernement suffira-t-il ? Suffira-t-il à calmer la grogne qui a gagné tout l'hôpital public depuis des mois ? Une rallonge budgétaire l'an prochain et des primes annoncées pour les soignants.
Le détail des mesures annoncées dans quelques secondes et les premières réactions plus que mitigées.
L'état d'esprit, c'est de la plupart de mes collègues d'ailleurs, c'est qu'on est désabusés. C'est la grosse déception.
Nous serons à la Timone à Marseille et ce soir, le collectif Interhôpitaux se réunit à Paris.
La Française des Jeux qui entre en bourse demain. Gros succès populaire, un demi-million de Français acheter des actions.
À suivre également, comment mieux détecter et éloigner les enfants des potentiels pédophiles. Nouvelles mesures et sanctions durcies contre la consultation d'images pédopornographiques. Et puis aux États-Unis, le témoignage qui peut faire basculer la procédure de destitution. Il accuse Donald Trump d'avoir directement donné l'ordre de faire pression sur l'Ukraine.
Enfin, le mystère Montaigne, son tombeau présumé à Bordeaux a été ouvert pour vérifier que c'est bien lui.
C'est comme une enquête policière, on va comparer si possible à l'ADN d'un ou d'une descendante actuelle.
Voilà, c'est un peu les experts en blouse blanche. On suivra les opérations à la fin du journal. La Bourse de Paris finit en légère baisse de 0,25% à 5894 points.
Et la tendance météo signée avec le sourire d'Anissa.
Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Une nouvelle perturbation arrive dans la nuit par l'ouest. Encore un temps très agité dans le sud-est. Tous les détails de cette météo, c'est dans un instant à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Il faut éteindre l'incendie. Depuis 8 mois, l'hôpital bouillonne. D'abord les urgences, puis tout le secteur hospitalier que l'on a vu dans la rue massivement la semaine dernière. Il fallait des moyens. Le gouvernement a dévoilé un nouveau plan d'urgence ce matin. Des primes, de nouvelles marges budgétaires et une mesure qui était attendue. 10 milliards d'euros de dette sera reprise par l'État. Écoutez Édouard Philippe.
Nous lancerons dès 2020 un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sur 3 ans qui permettront de rétablir, de restaurer l'équilibre financier des établissements. Elle permettra aux hôpitaux de réduire leurs déficits et de retrouver rapidement les moyens d'investir. Mais bien pour moderniser les hôpitaux actuels, c'est un geste fort pour l'hôpital public que les communautés hospitalières puissent se concentrer sur leur métier, le soin, au lieu de s'épuiser à rembourser des emprunts.
Voilà, retrouver les moyens d'investir, promet le Premier ministre. Cette reprise de la dette, c'est 800 millions d'euros par an de marge de manœuvre dégagée pour les hôpitaux.
Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir à tous.
On voit les mesures dans le détail avec vous. Le gouvernement a mis en tout cas de l'argent sur la table.
Oui, au-delà de la reprise de ces 10 milliards de dettes, il y a une hausse du budget de l'assurance maladie. 1,5 milliard de plus dans les 3 prochaines années, dont 300 millions dès l'année prochaine. L'exécutif dit vouloir redonner de l'oxygène au système hospitalier. Mais après 8 mois de grève aux urgences, il faut aussi récompenser l'engagement, pour reprendre les mots d'Édouard Philippe. Et là aussi, le gouvernement sort le carnet de chèques. Ça passe par de nouvelles primes pour les infirmiers et aides-soignants de région parisienne. 40 000 employés qui souffrent du coût de la vie. 800 euros annuels leur seront versés. Il y a aussi 100 euros nets mensuels de plus pour les personnes des services de gériatrie. De l'argent qui s'accompagne d'une promesse, celle de réformer la gouvernance des hôpitaux. C'était déjà l'esprit du plan hôpital 2022 présenté il y a un an. Mais le Premier ministre l'assure, les annonces du jour vont coûter au budget de l'État. Mais dit-il, nous assumons d'investir dans l'hôpital public pour dépasser cette crise dans l'intérêt de la nation. Fin de citation. Et je rajouterai, pour calmer les esprits dans les hôpitaux, à quelques jours du mouvement social du 5 décembre.
Les précisions de Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et les réactions sont mitigées ce soir au sein des personnels soignants. On verra ce qu'en disent vos invités, Nathalie, après le journal. Le collectif Interhôpitaux se réunit aussi ce soir à Paris et à Marseille. Écoutez le professeur Jouve, il dirige le pôle pédiatrique de l'hôpital de la Timone. La semaine dernière, il manifestait à Paris.
Ce soir, l'état d'esprit, c'est de la plupart de mes collègues d'ailleurs, c'est qu'on est désabusés. On a en réponse une espèce de calcul habile pour saupoudrer un peu de l'argent sur certaines catégories, propre à cliver d'ailleurs le mouvement. Je ressens plus un jeu politique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi que les conditions de vie dans les autres villes et dans les hôpitaux, qu'ils soient de province, des petites villes ou des grandes villes, sont aussi très dégradées et elles ont besoin de gestes également. Donc ce type de geste est soit maladroit, soit volontaire pour cliver les populations médicales.
Parce que ce que vous attendiez, c'est des augmentations de salaire, c'est des postes supplémentaires, c'est donc des ouvertures de lits, c'est ça ?
Des ouvertures de lits, des ouvertures de postes, l'avalement complet de la dette, il n'y a rien de tout ça. C'est la grosse déception.
Le professeur Jouve à la Timone à Marseille, au micro de Nathalie Chevance.
Et on va rester longuement sur ce sujet ce soir. On en débat après le journal et même jusqu'à 19h. N'hésitez pas à nous rejoindre au 3921. Autour de cette table, nous aurons un chef de service, un médecin urgentiste qui est aussi député La République En Marche et puis une infirmière au service des urgences de l'hôpital Bicêtre. Tous discuteront, regarderont dans le détail avec nous ces mesures, leurs réactions évidemment à suivre.
Il est 18h05 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Les Français aiment parier. La preuve, Sébastien, les actions de la Française des Jeux se sont arrachées.
Oui, ça y est, les ventes sont closes. La FDJ entrera en bourse demain matin. On connaît le prix de chaque action. 19,90 €. On est dans le haut de la fourchette. Gros succès populaire. Emmanuel Dutheil, vous êtes à Bercy. Le gouvernement se réjouit. Ça fera plus de 2 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
Oui, hein, Bruno Le Maire avait le sourire. Il faut dire que la demande des particuliers a été très élevée. Plus d'un demi-million de Français se sont positionnés pour acheter des actions de la Française des Jeux. Le ministre de l'Économie parle donc de grand succès.
Ça prouve que l'attachement des Français à la Française des Jeux et la volonté de beaucoup de Français de participer à ces privatisations. On est dans un moment où beaucoup de Français se demandent où placer leur épargne. Nous voulons offrir aux Français la possibilité de financer leur économie et de diversifier leur épargne.
Tous les particuliers qui ont misé 2000 euros seront totalement servis. En revanche, ceux qui en voulaient un petit peu plus n'auront pas toutes les actions voulues. Au total, hein, entre la participation de l'État, celle des particuliers, celle des débitants de tabac, celle des anciens combattants et celle des salariés, environ 60% du capital sera entre les mains des Français, assure Bercy. La première cotation est attendue demain à 9h30.
Emmanuel Dutheil du service économie d'Europe. Et puis le coup de gueule ce soir des hôteliers qui sont réunis en congrès en ce moment. Ils se disent outrés du partenariat qui a été signé entre les JO 2024 et Airbnb. Ils suspendent à ce stade leur participation à l'organisation des JO de Paris.
De 2024, en effet. On y reviendra avec vous, Sébastien Krebs, un peu plus tard. Un face-à-face aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, un surveillant de prison confronté à celui qui a tenté de le tuer.
C'était en 2016 à la maison d'arrêt d'Ogny dans le Val d'Oise. Premier attentat terroriste commis au sein d'une prison par un détenu radicalisé, Bilal Taghi, qui est jugé depuis hier. Il avait blessé deux surveillants, le plus grièvement à la gorge. C'est lui qui s'est exprimé le premier aujourd'hui, Chloé Triomphe, et qui s'est adressé directement à l'accusé.
Oui, dans une déposition assez déroutante, Philippe, aujourd'hui âgé de 51 ans, surveillant massif physiquement mais très doux dans la voix, a choisi un ton bienveillant, quasi paternaliste envers l'accusé. En se tournant vers lui presque comme un éducateur, en tout cas comme l'ancien surveillant affecté plus jeune au quartier des mineurs qu'il a été, il lui a délivré un message d'espoir. Tout n'est pas perdu. Si vous êtes croyant, vous savez qu'il y a la lumière et les ténèbres. Choisissez votre camp maintenant pour vos enfants. Dans son discours, aucun désir de vengeance, aucune colère, même si, explique-t-il, c'est un combat quotidien de ne pas y céder depuis 3 ans. Je veux juste redevenir l'homme que j'étais, l'homme que je suis, quelqu'un qui veut aider et faire le bien. Une déposition empreinte d'une extrême résilience à l'opposé de la violence de l'agression, filmée par les caméras de vidéosurveillance de la prison et qu'il n'a d'ailleurs pas voulu revoir lorsqu'elles ont été diffusées un peu plus tôt dans la journée.
Chloé Triomphe depuis la cour d'assises de Paris.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, des sanctions durcies contre ceux qui consultent des images pédopornographiques.
Et puis un témoignage qui accable Donald Trump dans l'enquête en destitution. On suivra ses audiences à Washington. Enfin, le mystère Montaigne, son tombeau a été ouvert aujourd'hui à Bordeaux et visiblement c'est bien lui.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. 18h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Avec ces nouvelles mesures annoncées pour protéger les enfants des violences et notamment les violences pédophiles.
Ouais, on estime qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours de la violence de ses parents et qu'un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Aujourd'hui, un durcissement des sanctions a été annoncé. Virginie Salmen, Et ça commence d'abord pour ceux qui consultent des images pédopornographiques.
Oui, consulter les images pornographiques qui mettent en scène des enfants sera puni non plus de 2 ans de prison, mais 5 ans. Environ 400 adultes sont condamnés chaque année pour ce type de délit. Ils seront désormais automatiquement inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et autre nouveauté, ils auront l'interdiction de travailler auprès d'enfants. Les dirigeants de crèches, de clubs de sport ou d'associations devront consulter ce fichier quand elles embauchent quelqu'un. Et puis, autre volonté du président de la République, lutter contre l'exposition des jeunes, des ados à la pornographie via Internet. En France, un enfant est exposé pour la première fois à ce type d'image à l'âge de 13 ans en moyenne. Or, on n'emmène pas un enfant quand on le promène dans la rue dans un sex shop à 13 ans, a déclaré Emmanuel Macron. Il donne 6 mois aux acteurs de l'Internet pour trouver une solution technique pour mettre en place un contrôle parental par défaut. Le chef de l'État souhaite que ces mesures s'appliquent au niveau européen, voire international, d'ici l'an prochain. Autre mesure phare de ce plan, une augmentation de 8% du budget du numéro d'écoute Allô Enfance en danger, le 119. Ça correspond au recrutement de 5 nouveaux écoutants. Et puis davantage d'unités d'accueil pédiatrique, ces structures situées dans les hôpitaux qui prennent en charge les enfants victimes de violences. En les soignant et en les écoutant, il devra y en avoir une dans chaque département d'ici 2022. Dernier point, une expérimentation, un numéro d'aide pour les personnes qui présentent des pulsions pédophiles. Ça se fait déjà en Allemagne, ce sera un test en France.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, merci.
On file aux États-Unis maintenant, hein, où l'enquête qui vise Donald Trump vient de connaître un véritable tournant. Hein.
Avec un témoignage qui peut tout faire basculer. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Nathalie.
Vous suivez pour nous aux États-Unis ces auditions qui continuent devant le Congrès. Ce témoin, c'est l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Il a donc un accès direct au président et il affirme très clairement que c'est bien Trump qui a donné l'ordre de faire pression sur l'Ukraine pour enquêter sur son rival Joe Biden.
Exactement, j'ai suivi les ordres du président, affirme Gordon Sondland. Et ce qu'il raconte ressemble à une scène du Parrain. Il affirme que le président concernant l'Ukraine lui a dit, je cite, parle à Rudy. Rudy, c'est Rudy Giuliani, son avocat personnel. C'est lui qui a relayé l'ordre présidentiel. Et tous les acteurs du dossier ukrainien avaient bien compris l'enjeu, insiste l'ambassadeur.
Y a-t-il eu du donnant-donnant ? La réponse est oui. Le président Trump voulait une déclaration publique du président Zelensky s'engageant à ouvrir les enquêtes demandées. Nous avons tous compris que c'était la condition prérequise avant un coup de téléphone entre les deux présidents et une invitation à la Maison-Blanche, et que c'était la volonté et le désir du président.
Pareil pour l'aide militaire aux Ukrainiens, explique l'ambassadeur. Tout était conditionné à ces enquêtes anticorruption qui devaient salir la réputation de Joe Biden, potentiel rival donc de Donald Trump pour la prochaine présidentielle. Gordon Sondland répète sans cesse « Tout le monde était dans la boucle, la Maison-Blanche, le département d'État, il mouille tous les acteurs ». Et ce témoignage est crucial parce que Gordon Sondland, homme d'affaires dans l'hôtellerie, placé à son poste parce qu'il a donné 1 million de dollars à la campagne de Donald Trump, était un loyaliste avec un accès direct au président. Même si Donald Trump, à l'instant depuis la Maison-Blanche, dit que finalement, il ne le connaît pas très bien.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, on suivra bien sûr avec vous la suite de ces auditions et de cette procédure.
Voilà, alors maintenant, une enquête policière qui a travaillé traversé 5 siècles d'histoire, hein, Sébastien. Lors d'Autriche, on en a déjà parlé avant-hier. Ça y est, là, normalement, on est fixé, le mystère autour de la sépulture de Montaigne est peut-être en train d'être résolu.
Hein. Oui, le philosophe repose-t-il bien, comme les scientifiques le pensent, dans un musée de Bordeaux, la ville dont il fut maire au XVIe siècle. Pour s'en assurer, son tombeau présumé a été pour la toute première fois ouvert aujourd'hui. Opération méticuleuse et très scientifique, Stéphane Place.
Oui, exactement comme sur une scène de crime, ces scientifiques portent combinaison blanche et masque lorsqu'ils procèdent à l'ouverture de ce cercueil. Une plaque en cuivre sur le couvercle laisse apparaître le nom de Michel de Montaigne, mort à la fin du XVIe siècle. Faut-il encore formellement s'assurer qu'il s'agit bien des restes du philosophe ? C'est Hélène Réveillas, archéo-anthropologue, qui dirige les investigations.
C'est comme une enquête policière. Donc sur les ossements, on va amener une analyse anthropobiologique, donc essayer de déterminer le sexe, estimer l'âge, voir s'il y a des pathologies. Parallèlement, on va aussi mener des analyses ADN et comparer, si possible, à l'ADN d'un ou d'une descendante actuelle.
Descendant de Montaigne, contacté par le musée d'Aquitaine, Dominique Deur a découvert récemment cette filiation.
Par mon frère, qui est un féru de généalogie et qui a découvert une filiation donc, par ma grand-mère paternelle avec la famille de Montaigne. Moi, je serai tout juste fournisseur d'ADN dans cette histoire, c'est tout. C'est un peu touchant, disons.
L'ADN, mais aussi, par exemple, des concrétions calcaires qui pourraient se trouver dans le cercueil. Et si c'est le cas, eh bien, ce sera une indication précieuse, car l'auteur des essais, figurez-vous, souffrait de calculs rénaux chronique qui laisse ce genre de traces.
Ben voilà, on découvre encore des choses sur Montagne. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Merci beaucoup Stéphane Place, merci à vous Sébastien. L'info revient dans un quart d'heure évidemment.